vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato ma no, e va bene lo so, ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina.
Ma tu non piangere.
Aligre FM presenta Cappuccino.
Il presentatore della domenica è Alain Mengual con i suoi invitati.
Alino, come
sì,
stai?
Sì, bene, bene, benone, come sempre.
Oui, bon.
Merci à Raphaël qui a commencé l'émission. Merci à Chantal qui a
avec
continué.
Plaisir.
On va passer à la troisième partie.
Avec toi, Alain, ouais. Et puis tes invités, donc Tony et Didier. Voilà.
Ouais. Tony Salvatore, on peut les nommer, ouais. Et Didier.
Vous écoutez Aligre FM. Voilà.
Donc Michel m'a demandé de remplacer pour ce spécial
sport. Le programme
sport,
que vous allez
que
écouter est une rediffusion.
Bon, et bon donc, allez, on a Raphaël. Qui, de puis là, on a deux grands sportifs.
Voilà, qui vont bien, voilà. Bien savoir répondre aux questions. Voilà. Alors, au programme de cette émission, on va continuer. On avait la minute un petit peu calabraise, ah oui, québécoise. Eh bien, on va continuer avec un Calabrais, puisque Stéphane Flocari est d'origine calabraise, lui aussi. Et donc, mais lui, il est plutôt philosophe, et donc ça va être sa rubrique qui s'appelle « Le casting de Noël ». Ensuite, on aura des chants de Noël avec nos invités. Et puis, entre les deux, on ira à une petite rubrique de cinéma et théâtre.
Buongiorno a tutti, bonjour à tous. Sono Stéphane Flocari, je suis votre philosophe du dimanche matin. On se retrouve chaque semaine dans Cose Questo, avec un thème de réflexion tiré de l'actualité ou de l'air du temps. Bon réveil philosophique à toutes et à tous. Si vous avez du mal à émerger, c'est normal. Mais rappelez-vous que c'est le jour de la pasta chute.
Le casting de Noël. Le petit Jésus n'est pas encore dans la crèche. Il doit y entrer le dernier. Et nuitamment de préférence. Car dans les premiers siècles de leur histoire, au cours du haut Moyen-Âge, les chrétiens ont aligné la naissance du Christ sur les Saturnales romaines, qui ont lieu fin décembre, en renonçant à faire naître leur Messie, que les Juifs attendent encore, à l'équinoxe de printemps, lorsque la lumière et les ténèbres s'équilibrent. Mais le casting de Noël a plus d'une star dans sa hotte, que porte un certain Père Noël, lui-même flanqué de diverses figures, allant du Père Fouettard à la fameuse Béfane. D'abord, ni rouge, ni américain, ce qui fut longtemps antinomique. Le Père Noël est plus qu'un vulgaire fils de pub, passé au service d'un soda devenu universel, ou un succès d'année commode du bon Saint-Nicolas. Celui dont un chanoine dijonnais a cru bon de pendre l'effigie sous le regard d'enfants médusés sur la place de la cathédrale de Dijon à la Noël 1951, en suscitant la réaction indignée de toute la presse hexagonale, est une véritable curiosité anthropologique, historique et culturelle. Il a résisté à toutes les tentatives pour le détrôner, puisqu'il est, selon Claude Lévi-Strauss, rien moins que la divinité d'une classe d'âge de notre société, vouée à recevoir un culte de la part des enfants à certaines époques de l'année. Divisé sur ses effets mentaux et éducatifs, les psychologues reconnaissent généralement son utilité en matière de rêverie et d'imaginaire. Se pose pourtant de façon récurrente la question de savoir s'il n'est pas contradictoire de demander à la fois aux enfants de dire la vérité toute l'année et de leur faire gober un mensonge gros comme le choc qu'ils éprouvent dans la cour de récré de l'école quand ils mesurent qu'on les a floués. Oui, mais voilà, ils n'en veulent pas aux adultes et ils sont même prêts, une fois passé l'âge où ils se vengent, en déniaisant leur puinée, à perpétuer le mythe auprès de leurs futurs rejetons. C'est sans doute moins vrai des figures traditionnelles et plus anciennes de ces fées et autres sorcières, les Tantari, Frau Holle, Berchta ou encore de la Befana. Bien connue des Italiens et des Helvètes du Sud, la cousine lointaine de la babouchka russe, toute de noir vêtue, a souvent prêté son visage à l'épiphanie, partageant son action entre récompense et punition. Pas sûr que ces noms, tirés des grands folklores, soient encore connus de nos jeunes générations. Il faut dire que si celui qui fait la route chaque année pour eux depuis Rovaniemi, au fin fond de la Laponie, écrase la concurrence, c'est qu'il ne ménage pas ses efforts pour se faire apprécier en ouvrant grand la boîte aux lettres de son cœur. Il nous laisse dans la cheminée une idée toute simple. Chaque fois que toi, petite, petit, tu reçois un cadeau, ce sont tous les enfants du monde qui comprennent qu'ils méritent qu'on les aime. Merci à tous et à toutes. Bonne semaine à tous. Pensez à garder les yeux et l'esprit ouvert. C'était Stéphane Floccari sur Cos'è Questo, Don Cappuccino. Ci sentiamo domenica prossima.
Je rappelle que Stéphane Floccari a traduit un livre qui s'appelle Nietzsche à Messine, parce que c'est aussi un spécialiste de Nietzsche, pas seulement du Père Noël, et qu'on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies ou le commander aux deux librairies italienne, ça s'appelle donc, d'après Marcello Manto, qui a écrit l'original en italien, Nietzsche à Messine. Et voilà, le grand écran s'ouvre. Alors, on va les trois films, parlons cinéma, les trois films à voir en ce moment à Paris, c'est le dernier film de Mario Martone qui s'appelle Fuori, d'après Goliarda Sapienza, qu'on avait connu pour L'Arte della Gioia il y a quelques années, un roman. Et là, il s'agit d'un film qui s'appelle Fuori, et lui est inspiré d'une partie de roman qui s'appelle Les certezze del dubbio. Les certitudes du doute, oxymore. C'est avec Valeria Golino et notamment Matilda De Angelis. L'autre film, c'est le documentaire Pompéi sotto le nuvole de Gianfranco Rosi. Ce documentaire sur c'est une tranche de vie sur toutes les banlieues de Naples, ce qui se passe à Naples de nos jours. Un beau film en documentaire en noir et blanc. Et sortira bientôt le nouveau film de Ferzan Ospetek, l'Italo-Turc, qui s'appelle Diamanti. Là, c'est un rôle pour 18 femmes. Il sortira en janvier. On vous en reparlera en janvier quand il sera sorti. Et il y aura des invitations à gagner pour nos auditeurs, offertes par le distributeur. Et moi, j'attends impatiemment le film La Douze de Pietro Marcello avec Valeria Bruni Tedeschi. J'attends de voir comment Valeria Bruni Tedeschi interprète le rôle de cette diva. On la compare à la Sarah Bernhardt italienne. Donc voilà, ce sera en janvier. On va parler un petit peu de public, de revue, et notamment le dernier numéro de la Voce, qui est sur le Friuli Venezia Giulia, dont on parlait justement tout à l'heure. Donc cette région du nord de l'Italie, qui est autrefois très pauvre et qui est maintenant une des régions plus riches d'Italie. Si vous voulez vous abonner, vous envoyez un mail à revistalavoce@gmail.com ou bien sur le site lavoce.com. Une dernière chose, c'est Noël, c'est les vacances. Les aventures de Pinocchio se jouent en ce moment, d'après donc, le célèbre roman de Collodi, au Théâtre des Mathurins. C'est les week-ends, c'est une mise en scène d'Olivier Soliveres. Et pour avoir plus d'informations, vous appelez le théâtre au 01 42 65 90 00. Je répète, 01 42 65 90 00. Eh bien, on va commencer par de la musique avant de recevoir nos invités. Et on écoute un chant de Noël.
Yeah.
Vous avez reconnu certainement la belle voix de Pavarotti. C'était un chant intitulé « Tu scendi dalle stelle », tu viens des étoiles. Et ce chant est attribué, on ne sait pas trop, mais à Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Voilà. On va maintenant passer à des choses plus sérieuses, comme quoi le calcio, quelles sont les grandes rubriques que vous nous proposez ?
Bonjour à tous, bonjour Alain, bonjour Didier, ça fait plaisir de se revoir.
Moi aussi, tout à fait, bonjour à tous, bonjour à toi Tony, bonjour aux auditeurs.
Bah le petit bilan de l'année sportive italienne.
Oui, ça va être sympa, on va faire un petit peu comme un repas, on va faire entrée, plat et dessert, c'est-à-dire qu'on va décomposer ça. Oui, ça vous fait rire, mais moi je viens finir mon petit déjeuner, donc je dis qu'il faut rester un petit peu dans le style. On va commencer par parler de volley, de pallavolo, de moto, de tennis, et puis après on ira sur le rugby, le basket, le cycliste, et pour finir bien sûr sur le calcio, la rubrique football est toujours assez importante, donc il y a pas mal de résultats qu'on pourra un petit peu décomposer, les résultats italiens qui ont été bons, moins bons, excellents, tout au long de l'année selon les disciplines. Voilà.
Alors, ouais. Par quoi commence-t-on ? Alors, calcio, par quoi commence-t-on ? Volley, calcio.
Dis-moi, qu'est-ce que
c'est toi.
Non, mais je rigole, mais... Alors, on peut commencer par le volley. Donc l'Italie a été donc championne du monde de nouveau, hein, c'est son cinquième titre. L'Italie donc qui avait battu en poule notamment l'Algérie, avait été battue par la Belgique et avait battu l'Ukraine. Quart de finale, elle a battu l'Argentine, la Belgique, c'est un peu vengeux de la Belgique qui les avait battus au premier tour, la Pologne, et en finale, elle avait battu la Bulgarie 3-7-1. Donc l'Italie est un peu un grand du volley, du pallavolo, parce que c'est son cinquième titre après celui de 90, 94, 98 et 2022. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le volley, le pallavolo.
C'est quand même une tradition.
C'est une tradition.
Qui se maintient.
Ah, complètement. L'Italie a toujours été un grand du pallavolo. En moto, on peut aller très vite parce qu'au Grand Prix GP, il y a quand même une troisième place de Marco Bezzecchi, si je le prononce bien. Bezzecchi, ça va être ça. Donc voilà, qui a fini sur le podium final du classement des Grands Prix moto GP. Donc c'est quand même un bon résultat pour ce qui est de la moto. Voilà, est-ce qu'on continue un autre sport encore, si vous voulez ?
Par exemple,
on peut continuer avec le tennis avec la petite merveille italienne qui fait son duel est un petit peu épique avec l'Espagnol Alcaraz, donc Jannik Sinner, donc qui a remporté cette année l'Open d'Australie, qui a remporté aussi Wimbledon devant Alcaraz en 4-7 et qui a été malheureusement finaliste de l'US Open et surtout de Roland Garros avec ce match historique qui a duré plus de 4 heures, c'est le record je crois pour une finale de Roland Garros. Il a été battu malheureusement en 5-7 par l'Espagnol. Voilà. Donc, les duels entre ces deux grands joueurs, ils ont joué 16 matchs depuis le début de leur carrière. Et l'Espagnol mène 10-6 devant l'Italien. Voilà ce qu'on peut dire sur ces trois premiers sports. On pourra après revenir sur d'autres sports.
Un commentaire, Tony, sur ces...
Moi, je vois qu'on dit toujours on garde le meilleur pour la fin. Donc, tu as gardé le football. On espère que c'est de bonne augure parce que bon, voilà, dans tous les sports, Italiens, là, ça brille quand même. Voilà, même le tennis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de grands champions comme ça et qu'on a encore gagné la Coupe Davis.
Oui, tout à
donc,
fait.
Donc voilà, c'est super. La pallavolo, la moto, on est toujours quand même toujours présent. Il y a toujours eu des Italiens. Et le foot ?
Le foot, on va en parler tout à l'heure. Bon, il y a eu quand même une place en finale. Hein. Bon, une place voilà, qui a été un petit peu après dure à digérer parce que le score a été assez dur pour l'Inter. On verra ça tout à l'heure. Voilà, sinon, c'est vrai que les autres clubs italiens ont eu des résultats assez médiocres dans l'ensemble, malheureusement. Voilà.
Ok, on va peut-être faire une petite pause musicale avec un Napolitain, Nino D'Angelo, qui nous chante Mari.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Ma che succede, gente, che succede? Mezza strada, gente, se va bene. Ma che succede, vino, che succede? Sto cagnando e tu sei più sincero. Ma che m'è fatto, dimmi che m'è fatto, carezza l'uomo che mi stringe in mano. Ma che m'è fatto, dimmi che m'è fatto, che sono contento di prestare su mano.
L'amore si sente, l'amore non si sa,
un cuore che va lento domani correrà.
Maintenant, peut-être quelques sports où on pédale.
Oui, on pédale. Mais on pédale difficilement, mais on pédale quand même. Donc, le Giro, les Italiens ont eu du mal aussi, même s'il y a Christian Sacconi qui a gagné la 16e étape. Le premier Italien est 5e à 7 minutes 32 quand même du vainqueur, l'Anglais Simon Yates. Donc, c'est difficile. Le Tour d'Italie aussi, ça fait un petit bout de temps que les Italiens n'ont pas gagné. Comme le Tour de France, là, les Italiens ont été un petit peu plus... chanceux, ou un peu plus de médailles, puisque Jonathan Milan, lui, a gagné deux étapes, la 8e et 17e étape, et ça lui a permis de s'adjuger le maillot vert. Le maillot vert, qu'est-ce que c'est? C'est le classement par points, donc il est même fini devant le vainqueur du Tour de France, Pogacar, Et donc ça a permis de Jonathan Milan de remporter ce maillot vert. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il n'y a pas grand-chose. Le meilleur italien donc à ce Tour de France, c'est Giulio Ciccone, qui est à 6 minutes 47 de Pogacar. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Raphaël, tu te rappelles, toi, je te réveille aussi comme tu m'as réveillé tout à l'heure.
Non,
le dernier italien qui a gagné le Tour de France.
Le Tour de France, le Nibali. Dernier italien. Franchement, je me rappelle.
C'est Nibali.
Ouais, Nibali. Lo squalo di Messina.
Voilà, on se rappelle que dans les années 60, il y avait Gimondi qui l'avait gagné. Il avait 22 ans, je crois. De
22 ans, oui.
Ouais, il était tout jeune, en 65.
Là, j'étais au Parc des Princes. Je me rappelle très bien. Il y avait la course contre la montre, la dernière étape.
Oui, tout à fait.
Et quand ils rentraient, les coureurs, ils rentraient au stade, il y avait le coup de pistolet. Il y avait Poulidor. Il y avait Poulidor et puis tout de suite, il est rentré Poulidor et tout de suite derrière. Gimondi, il était là. C'est gagné.
C'est vrai qu'à l'époque, au Tour de France, ça se terminait dans un stade ou à la Cipale aussi. Ça s'est terminé au stade. C'est vrai que c'était beaucoup plus impressionnant.
Ouais.
Donc voilà, c'est difficile pour les Italiens. Et le Tour de France, oui, ça fait donc très longtemps. Le Tour d'Italie.
Ça a changé de toute façon, ça a changé le cyclisme. Moi, je me souviens, à cette époque-là, il y avait des Français, des Italiens, des Espagnols.
Mais c'était par équipe nationale, c'était les équipes composées par équipe nationale.
Il n'y a plus d'Italiens, il n'y a plus de Français, il n'y a plus d'Espagnols, il y a des Lettons, des Sud-Américains.
Ça a changé, oui, ça a un peu changé.
Ça a changé la société. Hein.
Donc, le rugby, est-ce que l'Italie a progressé un petit peu? L'Italie est arrivée 5e sur 6 au tournoi des 6 nations. Elle a eu donc 4 défaites. Et elle a gagné quand même, il faut le souligner, devant le Pays de Galles. C'est quand même un exploit, 22 à 15, mais c'est toujours assez juste. Après, contre les grandes nations, on ne va pas rappeler les scores. C'est toujours difficile pour l'Italie, même si elle progresse, on va dire, d'année en année, hein, Raphaël.
Ça progresse, mais bon, ce n'est pas encore ça. Hein. Mais ça progresse quand même.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux sports italiens.
Et puis le public, il se passionne en Italie.
Ah oui, complètement.
Il y a un public, et puis et surtout, en fait, ils sont vraiment courageux. Ils ne lâchent pas parce que. Vu les scores, tu dirais, bon, allez, on arrête. Non, ils sont toujours là, et puis le public les suit.
Le public, il est là, il est fidèle. Hein.
Ouais. Mais les scores se réduisent, c'est ça qu'il faut dire. Ils ont perdu que, si on peut dire, 31-19 contre l'Écosse. Après, c'est contre la France que c'est un peu plus difficile. Hein. Et contre l'Angleterre, mais sinon, voilà, les scores contre l'Irlande, ils ont perdu que, par exemple, 22 à 17. Ouais, donc, on sent que le niveau se nivelle et ça se rapproche tout doucement. Quoi. Peut-être un jour l'Italie championne, vainqueur du tournoi des 6 nations.
Ça, je sais pas, franchement, ça, c'est comme l'équipe de foot. Hein.
Faut déjà essayer d'aller à la Coupe du Monde.
Voilà, c'est ça. Voilà, on n'est pas encore à la Coupe du Monde.
Ce n'était pas une tradition en Italie, le rugby, autrefois dans les années 50-60, par rapport aux pays anglo-saxons ou à la France.
Non, c'est devenu assez tard. C'est pour ça qu'il faut du temps, je pense.
Donc, ils font des progrès tous les ans.
Ah oui,
donc,
complètement. Il faut regarder, mais ça fait bien une grosse trentaine d'années qu'ils sont dans le tournoi des 6 nations, parce qu'avant, c'était bien sûr le tournoi des 5 nations. Et voilà, il y a un apprentissage à faire sur des grosses équipes comme la France, comme l'Angleterre. On ne devient pas à leur niveau du jour au lendemain. Et l'Italie a fait quand même des progrès assez fantastiques depuis quelques années, quoi. Il faut le souligner.
Ok, donc avant de passer à une autre rubrique, on va écouter encore une pause musicale avec cette fois-ci un duo de Alpha et Manu Chao et la chanson « A me mi piace ».
Que ora son mi corazon.
Manu, come fa amico mio? Mi piace il sole che mi scalda e la pelle me la cambia. La tua schiena che si inarca e mi sembra il sud Italia. Amo in Asia la francese ed i baci all'eschimese. Inventarmi le parole quando canto un pezzo inglese. A me mi piace dire a me mi piace anche se non si dice. Però rende l'idea in maniera molto più efficace. Amo GE col mare mosso, il caffè col vino rosso. Quando è il primo settembre sembra il 32 d'agosto. E sei luce la mattina,
me gustas tu.
La mia serotonina,
me gustas tu.
Mi fa alzare l'autostima,
me gustas tu. Me gustas tu. Me gustas tú.
Più del mar Mediterraneo.
Me gustas tú.
Una domenica allo stadio.
Me gustas tú.
Conto tutto il necessario.
Me gustas tú.
Sì, me gustas tutto, me gustas tú. Perché tu sei come Roma. Qualunque strada portata a te.
se mi portare a te.
11 della notte in Managua, Nicaragua.
Stavo pensando, se dormi 8 ore al giorno son 100 giorni in un anno. Ma fossi qui con me non dormiremmo così tanto, sì così tanto, sì così tanto. A testa bassa mentre stavo camminando mi sono accorto ieri che il cielo parte dai piedi, che le cose cambiano forma in base a come le vedi. A me mi piace che mettiamo l'energia, anche se vado via mi prendi ovunque un po' come Radio Maria. Sei luce la mattina,
me gustas tu.
La mia serotonina,
me gustas tu.
Mi fa alzare l'autostima,
me gustas tu. Me gustas tu, no, me gustas tu.
Più del mar Mediterraneo,
me gustas tu.
Una domenica allo stadio,
me gustas tu.
Tutto il resto è secondario,
me gustas tu.
Sì, me gustas tu, tutto me gustas tu.
Ci gusta tutti questa canzone. Alors après le ballon ovale, on va peut-être mettre des gants.
Oui, les gants, bah, un autre sport où les Italiens étaient très forts et très voilà, depuis des années et des années, hein, pour pas dire depuis plus de 100 ans, avec Primo Carnera, voilà, Benvenuti dans les années 60-70. Et c'est vrai que là, depuis quelques années, on est un peu dans le creux de la vague. Hein, le dernier vraiment grand champion, c'était Stefano Zoff. Bon. Mais là, il y a deux Italiens. Alors, c'était pas des jeunes, ils ont presque 30 ans, mais il y en a un qui est classé numéro 2, Michael Magnesi, qui est classé numéro 2 mondial, donc peut-être là en 2026 une chance mondiale. Et puis il y a Guido Vianello qui a fait une belle performance. Alors lui c'est un poids lourd, Magnesi c'est un super plume 59 kilos, Vianello c'est un poids lourd plus de 100 kilos. Hein.
Oui, c'est
et lui il a fait la performance puisqu'il a battu un Canadien là, aux États-Unis. Et donc bah, peut-être aussi voilà en 2026 on lui augure le meilleur avec cette victoire donc KO au cinquième round donc voilà peut-être la relève pour l'Italie en boxe en pugilato.
Est-ce que c'est du talent qui manquait ou c'est il y avait plus trop de monde dans cette nouvelle génération quoi.
Je sais pas, il y avait voilà je pense que c'est un peu comme au foot, il y a moins les gens font moins de sport aussi en Italie hein, voilà et puis on voit ça change voilà le tennis, les gens s'orientent vers d'autres sports.
Ouais. Et c'est peut-être plus facile le tennis, je sais pas.
Voilà, c'est ça parce que la boxe c'est dur. Et c'est vrai que il y avait des grandes régions comme dans le nord où il y a eu pas mal de champions. Dans Udine, Trieste, voilà, on a eu des grands champions à une époque. Ouais, hein, la vie était dure là-bas. Voilà. Après, c'était plutôt dans le sud, Sicile, Naples. Là, c'est en train de venir un peu sur Rome. Hein, les deux boxeurs, je vous ai dit, sont originaires de Rome. C'est vrai que l'évolution de la société fait que voilà,
c'est plus difficile.
On s'oriente plus vers des sports peut-être. Voilà, c'est comme l'athlétisme aussi.
Ah oui, les années 80, c'était vraiment le top. Hein.
Ouais, c'est ça. Et voilà.
Mazzing, Benvenuti, oui. Barcar, justement. Et voilà. J'en passe, j'en oublie.
Mais moi aussi, j'en oublie là, mais.
Il suffit peut-être d'un grand champion pour après lancer, comme il y a justement au tennis en ce moment, pour ramener un petit peu de la fougue derrière au niveau des.
Parce que là, au dernier JO, bon, pas terrible, hein, les JO pour la boxe italienne, c'était pas top.
Difficile.
Alors qu'il y a quelques années, on a eu des médailles olympiques, en vois-tu, en voilà. Hein, donc voilà, bon, on espère que ça va revenir. Voilà.
On espère.
Et je crois savoir que Tony, tu organises peut-être certains tournois.
Cette année, ça sera le 28, 29, 30 mai. Il y a beaucoup, beaucoup d'Italiens. Et donc, j'ai vu depuis ces derniers temps, parce que ce tournoi-là, ça sera la 20e édition. Et au début, les Italiens ne gagnaient pas. Ils venaient, mais ça ne gagnait pas. Et là, ça fait 3-4 ans. On a plein d'Italiens qui gagnent. qui gagne la ceinture. Et on sent, voilà, que ça, voilà, ça,
ça, leur, ça, voilà, ça ils ça sont rentre. Passionnés. Quoi,
oui, oui, ça, ça revient, la boxe revient. Et donc, si on a des bons amateurs, ben forcément, ça fera des bons professionnels derrière. Hein, donc,
par la suite. Oui.
Et féminin, ouais, masculin et féminin, c'est de la boxe amateur. Mais donc on a souvent l'équipe d'Italie féminine qui vient, l'équipe masculine également. Donc voilà.
Très important, t'avais, enfin, il y a quelques années, tu avais aussi de la boxe handicap.
Oui, ah, toujours, ça, toujours, tous les ans, tous les gens.
Il faut le souligner parce que voilà, ouais, c'est génial. Ça.
La boxe en, avec handicap. Alors il y a différents handicaps, mais voilà, tout, on les met, on les met. À l'affiche, on les met à l'honneur parce que voilà,
c'est important.
C'est important.
C'est important.
Voilà. Exactement. Ouais.
Alors, on parlait de boxe féminine. On va écouter une voix féminine, la belle voix de Giorgia dans la chanson Parole dette male.
Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu. E quante macchine come la tua, dello stesso blu. La mia pelle e il mio foglio bianco e ci scrivo su.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Le programme que vous écoutez est une rediffusion.
Non sei più mio ricordo, sei un'allucinazione. Chiudo ancora i miei occhi quando sento il tuo nome. Cielo che crolla giù e io non ragiono più. Sono cose che non ho deciso, tipo cosa farò. Galleggiare senza direzione, finché mi ritroverai. Ogni volta che vedo il mare, io cresco un po'. Qualcuno ha messo il tuo stesso profumo, cambia il colore al pomeriggio però. È un pensiero profondo come un capello biondo conficcato là in testa che mi dice che il mondo ora non esiste più. Io non ragiono più e tu alla fine eri una bella canzone.
Écoutez Allegre FM 93.1.
C'était les paroles d'Ete Mal, ma cantate bene da Giorgia. Alors on va peut-être parler de sport d'équipe.
Oui, on va poursuivre avec le basket avant d'arriver tout doucement au calcio. Donc le basket, où l'Italie, c'est, on va dire, a fait des résultats assez probants malgré tout au championnat du monde, puisqu'elle avait battu tout le monde dans sa poule. En phase de poule, la Géorgie, la Bosnie-Herzégovine, l'Espagne et Chypre. Malheureusement, elle a été éliminée en huitième de finale par la Slovénie. Donc voilà pour le basket national. Au niveau du titre du championnat d'Italie, c'est encore Virtus Bologne qui l'a emporté. C'est son 17e titre dans la Ligue italienne de basket. C'est un des plus grands clubs de basket de l'histoire italienne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le basket. Après, on peut commencer à arriver sur le foot,
en attendant ces fameux barrages du mois de mars de l'équipe d'Italie, les barrages qui vont se dérouler en plusieurs matchs, hein, donc c'est des demi-finales et finales, hein, Raphaël.
Oui,
donc
oui.
Ça va être assez difficile parce qu'on n'espère pas que l'Italie manque la Coupe du Monde pour la troisième fois d'affilée.
L'Irlande et puis contre la Bosnie.
Voilà, il y aura peut-être le Pays de Galles après, je crois, c'est ça?
Non, c'est l'Irlande avant, puis après le vainqueur, Pays de Galles contre la Bosnie.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que si l'Italie se qualifie pour la Coupe du Monde, c'est qu'elle sera renversée dans un groupe assez facile, théoriquement.
Assez facile, oui.
Donc voilà, pour l'Italie, le plus dur, c'est les barrages. Après les barrages, ils sont pratiquement finaux. Non, mais voilà, ils ont des résultats qui sont assez probants après.
Oui, donc, c'est vrai, le tirage au sort a été favorable.
Voilà. Donc après, on reparlera de Ligue des Champions, du Calcio, de l'Europa League et l'Europa Conférence.
On peut continuer.
On peut commencer.
On peut y aller.
Ok, on peut y aller. Alors, en Ligue des Champions, Bologne, lui, a été éliminé dès les phases de poule. Bologne a été éliminé dès les phases de poule. Et en barrage, ça a été une catastrophe. Hein, ça a été une catastrophe, on va dire ça autrement. La Talenta a été battue par Bruges sur deux défaites, 2-1, 3-1. La Juve, mon pauvre Raphaël.
La Juve,
elle a été battue par le PSV Eindhoven, les Hollandais.
Il faudrait gagner deux matchs. Il y a encore deux matchs à jouer. Il faudrait faire 6 points pour aller au barrage. Je crois.
Mais là, c'était les résultats de l'année dernière. L'année dernière, ils avaient été éliminés par le PSV Eindhoven.
Ah oui, l'année dernière. Voilà.
Et le Milan AC aussi avait été éliminé en barrage. Donc, il y avait plus qu'un club italien pour les éliminations directes. L'Inter, lui, s'était imposé en 8e contre le Feyenoord. Le Bayern, qu'il avait battu aussi en quart. Et Barcelone, avec ses superbes matchs, on se rappelle, Anthony, matchs dantesques, notamment le match retour, ce 4-3 après le 3-3 de l'aller. Et on avait vu un Inter vraiment chevaleresque, battant contre le grand Barcelone, malheureusement. Contre le Paris Saint-Germain, ça a été beaucoup plus difficile. On ne va pas rappeler le score. Et donc, ça a été une cuisante défaite, malgré un bon parcours de l'Inter qui déjà, il y a quelques années, était parvenu en finale contre le
Manchester City.
Manchester City. Voilà ce qu'on peut dire sur la Ligue des Champions. Après, on pourra peut-être revenir sur l'Europa League et l'Europa Conférence.
Ok, alors on va faire une pause musicale avec le duo de Colapesce et Di Martino qui vont nous faire danser sur la musica leggerissima.
Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta. Un concerto per far nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da noi. Da
dentro ai supermercati, la cantano i soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti, la senti nei quartieri assolati che rimbomba leggera.
Après la musicale de Gerissima, on va revenir au calcio.
On va revenir au calcio, oui, avec l'Europa League, une des trois Coupes d'Europe où que l'Italie, les clubs italiens ont eu du mal à s'illustrer cette année. La Roma, qui hier a joué contre la Juve, avait gagné en barrage contre Porto sur deux matchs 1-1 et 3-2. Et malheureusement, la Roma a été éliminée après, au tour suivant, en huitième de finale par Bilbao, voilà, malgré une victoire à l'aller 2-1 par une défaite. Au retour en Espagne, au Pays Basque, 3-1. L'Asiodrome, c'était, on va dire, pas beaucoup mieux, avec l'Asiodrome qui avait battu le club de Slovaquie, Vitocha, 2-1, mais qui avait été éliminé le tour suivant par des Norvégiens. On est compte. Oui. Voilà, ces clubs ont beaucoup progressé. Malheureusement, voilà, les clubs italien, voilà, régresse un petit peu. La Lazio, qui est un grand club, parce qu'il a gagné des Coupes d'Europe par le passé, hein, avait été éliminé par Bodø Glimt, club norvégien, 2-0 à l'aller en Norvège. Ils avaient gagné au retour 3-1 et ils avaient été éliminés au tir au but. Voilà pour l'Europa League. En Europa Conférence, c'est un petit peu moins mal, on va dire. Voilà, c'est la Fiorentina, qui représentait l'Italie. Et en huitième de finale, ils avaient battu Panathinaikos, un club grec qui, par le passé, avait été en finale de la Coupe des Champions. Malgré une défaite 3-2 à l'aller, ils avaient retourné la situation au retour en gagnant 3-1. Et en quart de finale, ils avaient battu un club slovène, Selch, 2-1, 2-2. Et mais malheureusement, avaient été éliminés en demi-finale par le Betis de Séville, 2-0 et un but partout. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le résultat. Des coupes européennes, moi, dans l'ensemble, les clubs italiens régressent énormément. Je me souviens d'une année en 90, pour dire un petit peu que c'était le sommet. L'Italie a manqué de faire le grand chelem cette année-là, parce que la Coupe des Champions, qui s'appelait comme ça, avait été gagnée par le Milan. La Coupe des Coupes, qui existe encore, avait été gagnée par le Sampdoria de Gênes. Et la Coupe UEFA, et c'était deux clubs italiens qui s'affrontaient, et la Juve avait battu la Fiorentina. Et il y avait juste eu un petit peu ces tirs au but ratés. On ne va pas y revenir, enfin, parce que ça va être une douleur insurmontable. Avec ce fameux numéro 17
le foot italien,
de Donadoni.
Il a régressé, franchement.
Voilà, oui, ça a régressé fortement.
La Fiorentina, j'entendais tout à l'heure, elle est carrément dernière du championnat.
Oui.
Dernière du championnat, oui.
Le club d'Antonioni. Donc
il a peut-être la chance de s'en sortir. Hein. On n'est pas encore à mi-chemin.
Mais bon, c'est pas. Voilà,
mais quand même, c'est.
En Italie, il y a des clubs qui ont émergé, comme l'Atalante. Voilà,
ça sort la belle surprise, hein.
Et qu'on pris la place des ex-grands comme la Roma et la Fiorentina, par exemple.
La Roma, il tient son chemin quand même.
Il tient son chemin cette année, fait une meilleure saison.
Quand même, il manque un attaquant. Bon, moi, peut-être au mercato de janvier. Le Milan, il pourrait gagner le championnat, le Milan. Je pense qu'il est.
Ça se joue dans un mouchoir, là, pour l'instant.
Oui, ça se joue dans un mouchoir, voilà. C'est le mercato de janvier qui va faire la différence, là, un peu. Hein. Il lui faut un attaquant au Milan. Ils sont en train de recruter Fulkrung, un Allemand, là, quelque chose comme ça. Et donc, il pourrait, il a des chances.
Ben on espère, puis on espère qu'il y aura des résultats un peu plus probants dans les coupes européennes cette année, parce que c'est vrai que c'est des années difficiles par rapport aux années 80-90.
C'est sûr.
Rayonner sur l'Europe. Voilà ce qu'on peut dire.
Est-ce qu'il y a des explications? Est-ce qu'on sait pourquoi les gens s'intéressent moins au foot?
Pourquoi
c'est l'argent?
C'est question d'argent. Avant, dans les années 80-90, le foot italien, c'était top en Europe. Tous les joueurs venaient en Italie.
Oui, c'était laissé.
Alors, aujourd'hui, ils vont tous en Angleterre.
Et puis, il y a toujours. Maintenant, ça fait 30 ans cette année. Il y a Larry Bosman qui a tout cassé. Donc, Larry Bosman, c'est avant, vous aviez droit à l'Italie, c'était trois joueurs étrangers qui venaient par équipe. Voilà. Notamment au Milan, il y avait le trio d'Hollandais, Van Basten,
Gullit et Richard.
Et maintenant, il y a pléthore de joueurs qui viennent d'autres pays. Bon, ils apportent quelque chose. En même temps, ils empêchent
ils apportent quasiment rien. C'est des gens, ils coûtent pas cher. Voilà pourquoi ils coûtent pas cher, mais c'est un niveau moyen. Quoi.
On ne favorise peut-être pas l'éclosion de jeunes talents italiens dans les équipes. Et c'est ça. C'est peut-être une des explications de la baisse du niveau.
C'est l'explication. C'est l'explication. Il y a plus d'Italiens. Même comme. Ça fait 2 ans qu'il est venu en Serie A, il n'a pas joué à l'italien.
Et ça, c'est Larry Bosman. Et Larry Bosman, c'est arrivé en 1995. Et ça a permis aux joueurs de signer n'importe quel club, avoir de nombreux de joueurs d'un autre pays en nombre illimité. Quoi. Voilà.
Bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Pourtant, il y a des milliardaires dans le foot, hein, par ailleurs.
Oui, ça, il y a des milliardaires.
Alors, maintenant, spécialement pour Stéphane Boschi, on va écouter la Laura Pausini avec Umberto Tozzi dans Ti Amo.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. 1, 2, 3.
Ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci.
Io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo, ma cuore nel letto, comando io.
Ti amo,
primo maggio,
Amo et Tiamo, on les aime tous les deux hein, d'ailleurs, aussi bien Umberto que Laura. Alors, continuons et terminons avec le calcio.
Avec le calcio, donc les résultats de l'année dernière, sur la saison dernière, le Napoli qui avait coiffé le pauvre Inter, qui avait tout perdu en une semaine hein, avec son match nul sur ce avant-dernier match. Et le Napoli qui était de nouveau champion avec un point d'avance sur les Nerazzurri. Ceux qui descendent sur cette saison 2024-2025, c'est Empoli, Venise et Monza. Trois clubs en série B. C'est toujours très difficile après de remonter parce que les budgets sont un peu divisés au moins par deux, comme c'est pas plus, pour les clubs qui descendent. Et c'est toujours très difficile après de revenir parmi l'élite. Pour la Coupe d'Italie, c'est le Bologne qui a battu le Milan 1-0. C'est sa troisième coupe après celle glanée en 1970 et 74. Voilà, Bologne qui est un club qui revient un petit peu dans les on va dire, presque les hauteurs du calcio. Et c'est très bien parce que c'est un grand club. Dans les années 60, il avait gagné
lo scudetto en 64.
Voilà,
lo stadio olimpico.
Voilà, c'était assez... Le Ballon d'Or, là aussi, ça fait un petit bout de temps que les joueurs italiens ne l'ont pas gagné. Je crois que c'est depuis, il y a eu Cannavaro, il y a eu Rivera, il y a eu Sivori, mais ça fait un petit bout de temps, malheureusement, que les joueurs italiens, ne l'ont pas remporté. Là, cette année, c'est le meilleur au classement, c'est Donnarumma qui a fait une saison exceptionnelle, malgré les critiques qui ont plu sur lui injustement, parce que pour moi, ça a été cette année... le meilleur gardien du monde, et il a été aussi célébré comme tel. Il a fait des arrêts époustouflants avec le club de la capitale parisienne, et vraiment son statut est complètement justifié malgré quelques erreurs qu'on peut lui amputer. Donnarumma a été certainement le gardien le plus décisif pour son équipe tout au long de l'année. Il est aujourd'hui à Manchester City. On espère pour lui qu'il continuera à faire des grands exploits pour le club anglais, et surtout pour la Squadra Azzurra, c'est là qu'on l'attend le plus, hein, parce que c'est un peu le titre qui lui manque. Oui. Mais encore une fois, c'est un grand gardien dans la lignée des Zoff et des Buffon, qui ont été les grands gardiens italiens. Alors, il y a toujours les pro-Buffon et les pro-Zoff, mais on peut mettre Donnarumma pas très loin de ces deux légendes italiennes du football. Oui. Voilà ce qu'on pouvait dire sur,
oui. Mais sur le puisqu'on football, parle de sens. Foot, demain, il y a la finale de la Supercoupe d'Italie à Riyad en Arabie Saoudite, contre la Bologne, justement, parce que c'est la première fois qu'il jouera cette finale, le Bologne, dans son histoire, contre Napoli.
D'accord, ça sera un beau match.
Donc, Napoli avait battu le Milan de 2-0 et la Bologne a éliminé l'Inter à rigori 4-3.
Ça sera un super match, je pense. Voilà, c'est, c'est, c'est des clubs qui sont bien placés encore une fois. C'est un match qui est délocalisé, ça ne sera pas en Italie, ça, il faut souligner.
Non. Bon, ça fait des polémiques des fois, hein, comme le match Milan-Como la prochaine fois en Australie.
Bah oui, mais ça, c'est, bon. C'est le nouveau business du football, Raphaël, faut qu'on l'abstienne.
Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça.
L'émission se termine, on remercie évidemment Didier Béraud et Tony Salvatore d'être venus nous parler de ce bilan, en espérant que l'année prochaine, il y aura des plus qu'un peu partout.
Ebbene, Cappuccino termina qui. Tutta l'equipe vi augura ancora una buona domenica, una buona settimana e soprattutto un buon Natale. E vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora, stessa frequenza, sempre che voi lo vogliate.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Le programme que vous venez d'écouter est une rediffusion.